Un très bon début de semaine à vous tous, chers amis. Merci beaucoup d'être là. On va passer les deux prochaines heures ensemble et j'en profite pour vous dire d'entrée de jeu que tout à l'heure, en deuxième heure, on va recevoir l'humoriste Guy Nantel. Vous savez qu'il fait son cinquième man show et il y a plein de choses qui circulent en ce moment sur Internet. Il a fait, vous savez qu'il est très connu pour faire ces espèces de vox pop, c'est-à-dire il va dans la rue poser des questions à des Québécois. Et là, il l'a fait pour s'inviter finalement dans tout le débat sur la laïcité. Fait qu'on va parler de ça avec lui tout à l'heure, le débat sur les signes religieux avec Guy Nantel. Ce sera loin d'être plate. On va revenir également sur la maladie de Lyme parce que à chaque printemps, ben, c'est l'occasion de reparler des mesures de prévention, maladie importante qui, je le sais, vous fait parfois paniquer juste à l'idée d'être mordu. On dit bien mordu et non pas piqué par une tique parce qu'elles ont comme des... C'est comme quasiment des espèces de petites bébêtes à dents, ces affaires-là, de tiques qui nous envahissent. Il y en a un peu partout. On peut pas dire qu'il n'y a aucune région du Québec qui est épargnée. Alors, on aura des gens qui, malheureusement, ont été mordus dernièrement. Et également, Amir Kadir, le médecin que vous connaissez bien, qui est spécialisé en microbiologie et infectiologie, qui va nous dire également comment prévenir ça. Mais en première heure d'émission, ben, Paul Arcand vous l'a dit, on va revenir sur le marché de l'emploi. Paul parlait, entre autres, de la pénurie de main-d'œuvre. On s'en est souvent parlé, vous et moi, ici. J'animais le congrès de l'UDMQ la semaine dernière, puis je peux vous dire que c'était le thème numéro un. Comment répondre à la pénurie de main-d'œuvre? Comment freiner ça pour éviter que ça devienne un problème pour le Québec? C'est l'enjeu économique numéro un. On s'en est parlé pendant une heure, vous et moi, mercredi. C'est vraiment un grand enjeu. Et je trouvais intéressant, dans le cadre de cet enjeu-là, de se poser la question, comment ça se fait qu'il y a cette pénurie? Comment ça se fait aussi que la main-d'œuvre, les travailleurs, vous êtes peut-être pas contents de votre milieu d'emploi? Puis souvent, on se rend compte, puis l'actualité en a fait sa une ces jours-ci, on se rend compte que c'est le patron qui est mauvais. Que le boss, là, il mériterait d'être viré. Il mériterait de la perdre sa job parce que c'est un mauvais patron. Et on a même posé des questions, l'actualité a posé des questions par voie de sondage. Et finalement, écoutez, les chiffres sont assez incroyables. C'est 40% des Québécois qui disent qu'ils ont déjà quitté un emploi en raison de la mauvaise relation qu'ils ont avec leur supérieur immédiat. Ça, c'est un sondage qui a été fait en mars dernier auprès de 850 travailleurs. 40% des Québécois qui trouvent qu'ils n'ont pas un bon rapport avec leur patron, puis il y en a presque 30%, ils n'ont pas claqué la porte, mais ils ont pensé solide. Excusez-moi, j'ai des allergies dans la voix. Donc, ça fait 70% des gens là, qui ont eu soit un très mauvais patron qui fait qu'ils sont partis, ou qui ont un très mauvais patron et qui sont sur le bord de la porte. C'est pas très encourageant. Ça laisse juste peut-être 30% de marge pour dire, bon, moins. Tu n'as peut-être pas de problème avec ton patron. Peut-être que tu l'aimes, un coup chanceux. On va en parler avec mes invités que je vous présente tout de suite. Brigitte Bourque est coach exécutive chez Posé Coaching. Merci d'être là,
bonjour,
Brigitte.
Bonjour, Isabelle.
Guillaume Desnoyers, chasseur de tête, associé principal chez Desnoyers Ressources et Conseils. Conseil Ressources humaines, bien sûr. Merci d'être là, Guillaume.
Bonjour,
comment
Isabelle.
Vous voyez ça, vous, le problème du mauvais patron, Brigitte?
Bien, je vous dirais, ce qui me désole un peu, c'est que moi, j'ai été vice-présidente ressources humaines il y a bien des années. Et puis, ce qui me déprime, c'est que ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup évolué. Si on avait fait des sondages, un sondage semblable il y a 20 ans, je peux presque te garantir qu'il y aurait eu à peu près les mêmes résultats. Aujourd'hui, je te dirais que les gens osent peut-être plus sortir, démissionner, parce qu'ils ont peut-être moins peur de se retrouver un emploi. Le marché étant aujourd'hui un marché d'employés, c'est-à-dire qu'il manque de monde, comme on le sait. Alors, il y a plus d'opportunités aussi pour se trouver un autre emploi. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué.
Ce qui est assez pathétique, finalement.
Oui. Ouais.
Parce qu'une entreprise qui a les mêmes problèmes qu'il y a 20 ans, disons que c'est une entreprise qui n'évolue pas. Guillaume, comment tu vois ça? Comment ça fait qu'il y a autant de mauvais patrons? C'est ça, finalement.
Ben, j'écoute Brigitte, puis je me dis, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, à ce sens que s'il y a 20 ans, on avait les mêmes chiffres, on regarde aujourd'hui le rôle d'un patron, le rôle de gestion dans les organisations, c'est beaucoup complexifié au fil des années.
Ouais.
Je veux dire, amène la diversité de main-d'œuvre en termes culturels, en termes de génération. Le rythme de vie s'est accéléré, le rythme au travail s'est beaucoup accéléré. Fait que je me dis, c'est presque rassurant d'entendre que c'est pas trop détérioré. Ceci étant dit, je pense que les attentes qu'on a envers notre patron, parfois, sont
peut-être... C'est la même chose. C'est la même chose. Je trouve pas que c'est rassurant.
Ben, en fait, c'est rassurant parce que quand je regarde, moi, les patrons que je côtoie, quand je regarde, surtout à des premiers niveaux de gestion, quand je regarde de quelle façon ça s'est complexifié ces dernières années, je me dis qu'ils aient le même score qu'il y a 20 ans. C'est quand même pas si mal. Le rôle de patron est pas simple. Puis il y a aussi, comme on le disait là, dans l'article de l'actualité, oui, il y a beaucoup d'erreurs de casting aussi. Je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations de gestion qui sont pas à la bonne place. Et ça c'est malheureux. Ouais. C'est malheureux pour leurs employés, d'une part. C'est aussi malheureux pour eux parce que si les problèmes de santé mentale au travail s'accroissent, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale auprès des patrons qui ont des situations parfois plus difficiles qu'on le croit. Ça fait pas en sorte que les employés n'ont pas raison de se plaindre de leur patron, mais je pense que ça amène une perspective différente de qu'est-ce que c'est ce rôle-là de patron dans le contexte du marché du travail d'aujourd'hui.
Mais Guillaume, je suis d'accord avec toi qu'il y a des problèmes de casting au départ, mais après ça, il y a aussi des problèmes, une fois que le gestionnaire est en poste, si on détecte des problèmes, il ne faut pas attendre. Ouais. C'est aussi la responsabilité de l'organisation de l'entourer, de le supporter, de l'aider à évoluer. Alors ça aussi.
Mais quand l'organisation, c'est le patron, là on parle de PME au Québec, là on sait que c'est elle qui engage le plus. C'est pas toutes des grandes organisations multinationales, c'est beaucoup des patrons qui ont une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'employés. Fait que c'est le patron.
Oui, mais c'est raison de plus pour que ça soit évident. Ouais. Ça se détecte quand même assez rapidement. Tu sais, c'est pas rare qu'on engage un gestionnaire en lui disant voici, ça va être quoi ses responsabilités, le contexte, tout ça. Mais il arrive en poste, puis oups, c'est pas tout à fait ce qu'on lui avait dit. Alors, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Il y a même aujourd'hui ce qu'on appelle des coachings d'intégration, justement, pour aider les gestionnaires qui arrivent en poste. Je comprends que ça se fait pas dans les PME, peut-être plus les grandes. Mais au niveau des PME, je pense aussi que l'organisation, le grand patron, le président, il y a aussi des gens autour qui ont une responsabilité
C'est d'autant plus vrai quand on a de la difficulté à recruter. Quand on a de la difficulté à recruter, puis que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on travaille pour recruter un cadre, peut-être qu'on fait un petit peu d'overselling, peut-être qu'on y met ça un peu plus, un peu mieux que c'est en réalité. Puis que quand on intègre la personne, après ça, elle se rend compte que tout le support dont on y avait parlé, dans le fond, il n'existe pas vraiment.
Effectivement.
Puis un patron qui n'a pas de support lui-même, c'est souvent aussi un patron qui supporte mal ses employés. Fait qu'il y a une tangente là-dedans. Il y a une culture d'organisation parfois qui fait la différence. Une culture qui va être supportante, je pense qu'elle place ses patrons dans des prédispositions de leur permettre d'exercer leur rôle de façon adéquate.
Oui, mais vous parlez surtout, j'ai l'impression, de la grande entreprise. Moi, je vous ramène au PME. Dans les PME, souvent, le patron, il est tout seul. Tu sais, il n'a pas d'organisation qui le supporte. Puis la personne qui, finalement, supporte le patron, pardon, souvent, c'est le banquier, avec qui tu n'as pas forcément un rapport très, tu sais, très sympathique toujours non plus.
On salue tous les banquiers du Québec.
On va parler à Caroline, qui a déjà dû quitter son emploi deux fois à cause d'un mauvais patron, Caroline?
Oui, c'est ça. En fait, à deux reprises, la première fois, j'ai eu le malheur d'avoir un patron ou une patronne qui avait de la bipolarité sérieusement. C'était vraiment difficile de faire mon travail parce qu'un jour c'était oui, puis un jour c'était non. Oh. Fait que c'était des crises dans son bureau parce que oh mon Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé, OK. Mais puis le lendemain, c'est on se croise dans le corridor, on se connaît pas. C'était le truc le plus étrange que j'ai vécu de ma vie. La personne était zéro humaine. Elle ne savait pas gérer des êtres humains. Pour avoir géré des très grosses équipes moi-même, je comprenais pas ce qui se passait. Fait que je suis arrivée à bout. J'étais plus capable d'arriver puis de pas être sûre quel personnage j'allais recevoir là, le matin. Fait que c'était juste trop stressant. C'était déplaisant, c'est impossible. Puis plus récemment, en fait, j'ai intégré, comme votre invité l'a mentionné, du overselling. Là.
Oui.
C'était exactement ce qui s'est passé. C'était le personnage durant l'entrevue, tout est beau, c'est une belle structure, on oversell, puis finalement, c'est short staff partout, c'est embarque selling, même si c'est toi qui gères les 300 employés, c'est l'enfer total. C'est incroyable. Des heures à n'en plus finir, des courriels que tu reçois avec des insultes dans les courriels. Tu te dis, mais voyons mais donc.
Oui, j'allais dire, mais voyons donc.
Oui.
Ça se peut pas.
Mais, ah ouais, non, vraiment, ouais. C'était...
Et donc, vous êtes partie, vous, Caroline. Vous avez dit, là, moi, je supporte pas ça. J'ai pas à supporter ça. Là. Puis, il faut le dire aux gens, en fait, là, personne est obligé de supporter des calomnies, des insultes, du dénigrement au travail. Hey, déjà que, des fois, t'en as...
Ça frise le harcèlement psychologique.
Ouais. Ah non, c'est incroyable. Puis juste avant que j'étais en train de contempler le fait de quitter, je me suis blessée au travail parce qu'il y avait du manque sur toutes les lignes. On n'avait pas le choix de se mettre, d'aller aider, si on veut. Puis je me suis blessée. Ça fait un an de ça. Je me suis déchirée l'épaule. Puis je me suis fait harceler pendant 8 mois par mon employeur. Avant qu'il me congédie en disant, ben là, vu que t'es encore blessée, puis ils ont trouvé toutes les excuses du monde, pour justement essayer de trouver une façon de s'en sortir pour pas avoir à payer la CSST. Mais moi, ça fait un an que j'ai une déchirure à l'épaule puis j'attends d'avoir comme une opération ou quoi que ce soit.
Mais là, il vous a congédié, c'est ça que vous dites?
Ouais. Ben, moi, j'ai pas voulu me battre, là. Je savais que c'était en mon droit de me battre. Puis,
mais oui, comme, parce que normalement...
La seule option que j'ai, c'est de revenir. Fait que je veux pas revenir là, tu sais.
OK, je comprends.
Caroline, ouais. Je suis vraiment désolée parce que vous avez vraiment pas été chanceuse deux fois comme ça. C'est des situations assez extrêmes. Peux-tu vous poser une question?
Oui, allez-y.
Qu'est-ce que ça vous a appris sur la prochaine fois?
Ben, en fait, c'est parce que j'avais une entreprise avant tout ça, puis j'en ai eu une depuis. Je me suis partie des entreprises et tout ça. Puis j'ai réalisé que je suis juste mieux à mon compte.
Mmh. Ah, c'est comme... ça. Ouais. C'est ça votre constat. Ben ouais.
Ben bravo.
Faut quand même se rassurer. Vous avez connu deux cas d'horreur là. C'est malheureux. Mais on revient encore. Hein.
C'est malheureux, mais je vous ramène au sondage que je trouve fascinant de l'actualité qui nous dit quand même que 67 % des Québécois disent avoir eu un mauvais patron. Là-dessus, il y en a 40 % qui ont quitté la job à cause de ce mauvais patron. Fait que c'est pas... Caroline n'est pas comme, oh mon Dieu, pauvre elle, elle n'est pas chanceuse, elle
est mal tombée. C'est deux cas extrêmes
quand
même.
Non, ben, c'est le 2/3 des Québécois qui vivent ça.
Oui, mais c'est pas toujours, ils quittent pas toujours à cause de, t'sais, pour des causes aussi extrêmes.
Oui, merci Caroline. Merci. On a plein de gens qui veulent intervenir, alors on prend une pause, mais très courte. On vient tout de suite avec vos commentaires. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Des mauvais patrons, on en a tous eu. Au moins un. Je veux savoir si vous avez déjà quitté un emploi à cause d'un mauvais boss. Appelez-nous, puis on vous écoute, bien sûr, ce matin, tout de suite. Avez-vous déjà quitté un emploi à cause d'un mauvais patron? C'est la question que je vous pose. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850 et sans frais le 1-866-790-9850. Bonjour, Kevin.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute. Avez-vous eu ce genre d'expérience malheureuse avec un boss?
Oui, dans le fond, juste avant l'emploi que j'occupe en ce moment, j'étais à une place où, en entrevue, on m'avait dit « Écoute, ta job va être quand même assez simple. » On m'avait dit que j'allais être préparateur de commandes dans une place assez bien renommée. Mm-hmm. Techniquement, j'y étais, on m'avait dit « On va vous faire lever des charges maximum de 50 livres. On peut vous garantir à peu près 40 heures semaine, des fois peut-être 30 quand il y a moins de chiffres. » Au début, je me suis dit « Ok, c'est parfait, on débute, c'est normal. » Par la suite, la première semaine, on m'a mis sur appel, parce qu'au début, j'étais « Ok, tu sais, je suis nouveau, c'est correct. » Là, je commençais à, dans une rangée, justement, parce qu'on était 800 employés, où ce que c'était des charges de 130 livres. Je me suis dit « Ok, ça, c'était peut-être pas mentionné. » J'ai commencé dans les rangées à 130 livres pendant 8 heures de temps. Fait qu'après ma journée, j'étais...
Brûlé, fatigué, éreinté. Ben oui,
oui, vraiment beaucoup. Et après la deuxième semaine, j'ai remarqué qu'on me remettait sur appel encore parce qu'ils faisaient les horaires à la semaine. Et ta semaine commençait le dimanche, dans le fond, jusqu'au dimanche prochain. Au début, ça me dérangeait pas. Je me suis dit, OK, je peux pas trop organiser parce qu'on peut m'appeler n'importe quand. Alors j'y allais. Au bout de 3 semaines à me faire mettre sur appel, j'ai commencé à trouver ça un petit peu larbant, puis surtout que à chaque fois qu'on m'envoyait, parce que c'était tout dirigé électroniquement par un casque sur nos oreilles, c'était toujours dans les rangées de poids lourds, les 130, 140 livres. Au bout de quelques semaines, je disais à ma femme, écoute, je commence vraiment à plus être capable, je sens que mon corps est en train de me lâcher. Et là, j'ai voulu en parler avec justement un contremaître par la suite là-bas, qui m'a dit « Écoute, c'est normal, t'es nouveau, on va changer ça. » Et à partir du moment où j'ai commencé à parler de ça, là, mes heures ont complètement chaviré. On m'a mis sur appel, sauf qu'on s'arrangeait que chaque semaine, selon les journées qu'on me donnait de congé, les 2 jours par semaine, on s'arrangeait pour me faire des 8-9 jours en ligne.
Oh mon Dieu, là, ouais. On vous a comme puni finalement? Aviez-vous l'impression que c'était comme une façon de vous écœurer ou de vous... C'était quoi le but?
En même temps, oui. Puis ça a tombé que j'étais embauché juste avant le temps des fêtes. On m'avait dit pendant le temps des fêtes, les anciens prennent leurs vacances, donc c'est normal que vous allez faire de l'overtime. Puis ça allait être correct. Sauf que là, une journée, ça faisait 9 jours que je faisais en ligne. Le lendemain, on me dit, écoute, faudrait-tu rentrer pour de l'overtime? Là, je leur ai dit, écoutez, je commence vraiment à être presque plus capable. Puis là, on a commencé à me dire, écoute, ça marche pas comme ça. Si tu rentres pas, tu vas avoir des comebacks. Ouais. Fait que là, j'ai rentré. On m'avait dit, là-bas, quand je suis rentré, j'ai parlé au commandant, je lui ai dit, écoute, ça me dérange pas d'en faire un peu, mais je fais pas une journée complète. Et il me dit, ben, je vais te donner un 4-5 heures finalement. On m'a rappelé, puis il a fallu que je fasse un 12.
Et Kevin, comment ça a fini finalement? Vous êtes parti de vous-même, c'est ça finalement, hein?
Ah oui, je pouvais plus du tout. Ouais. Le salaire était bon, tout, mais...
C'est de la fausse représentation dès le départ. C'est ce que mes invités, Brigitte Bourque et Guillaume Dinoyer, disaient tout à l'heure. Vous parliez, merci Kevin, de overselling, donc de survente.
C'est un bel exemple.
On survend. Oui, c'est ça finalement.
Ben, on n'expose pas clairement les conditions dans un cas comme celui-là. Puis, tu sais, moi, il y a quelque chose qui me rassure là-dedans, là, c'est que ces organisations-là qui traitent leurs gens puis qui offrent des emplois, en tout cas, on peut se questionner, là.
Ouais.
Ben, probablement que c'est eux qui se plaignent le plus aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre. Mm. Mais je veux dire, quand tu traites tes employés comme ça, il ne faut pas que tu sois surpris de les voir quitter.
Ouais.
C'est à espérer là, que la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement va amener ces employeurs-là à se poser des réelles questions sur comment ils traitent leurs gens. Puis c'est quoi les conditions réelles qu'on leur offre aussi?
Je ne sais pas, ça devrait amener ça, mais
par contre,
Brigitte a commencé tout à l'heure en disant qu'on n'avançait pas non plus. Depuis 20 ans, on répète la même affaire.
Ouais, mais par contre, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un danger aussi. C'est que ça peut inciter les employeurs à promettre des choses, à créer des attentes qu'ils ne seront pas capables de livrer.
C'est
puis là, c'est sûr que c'est la recette idéale pour la catastrophe, c'est que les gens vont être déçus.
Ouais.
Et moi, je dirais, tu sais, ça a toujours été, puis c'est encore plus maintenant, quand tu postules pour un emploi, il ne faut pas se fier juste à ce que le recruteur ou ce qui est publié sur l'entreprise. Il faut aller chercher de l'information. Puis ça, c'est la responsabilité de la personne de faire ses recherches, d'aller trouver des gens qui ont déjà travaillé là, essayer de voir c'est quoi la vraie réalité là, sur le terrain, comment les gens vivent dans cette entreprise-là. Je pense que ça peut aider beaucoup à faire
ça. C'est intéressant. C'est intéressant, Brigitte, ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il faut se préparer aussi en vue des entrevues. Il faut bien savoir où est-ce qu'on s'en va travailler aussi.
Poser des bonnes questions.
Surtout quand on a le choix. Je veux dire, raison de plus quand on a le choix. Puis aujourd'hui, je pense que je veux dire, on le voit, là, même des étudiants par rapport à des jobs d'été, ils ont plusieurs choix. Moi, ma fille de 16 ans est allée faire 2 applications dans deux commerces du quartier. Elle a eu 2 offres.
Ouais.
Puis il y en a une qui est arrivée 4 heures avant l'autre, puis elle a dit oui. Donc,
c'est ça, il faut être rapide aussi.
Tout à fait, tout à fait.
On a Joanne avec nous. Bonjour, Joanne.
Bonjour.
Vous avez déjà quitté un travail à cause d'un mauvais patron?
Oui, moi, c'était une mauvaise patronne.
Mm-hmm.
C'était une personne. Moi, je suis représentante. J'ai toujours été représentante, toujours. Et c'était une personne qui, à chaque vendredi, voulait que je sois au bureau, justement, pour pas que, des fois, le vendredi, on finit plus tôt, quoi que ce soit. Me surveillait toujours. Et le vendredi, on avait toujours un meeting. Et puis, chaque vendredi, elle était avec son assistante. Et puis, il riait de tout le monde. Il riait de leur habillement. Il riait de. As-tu vu comment ils marchent? As-tu vu comment. Moi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent dire quand moi, je suis pas là?
Ben oui.
Fait que là, j'ai commencé à trouver ça un peu spécial. Par la suite, en tout cas, je rentrais tous les vendredis, puis il fallait que je finisse à 5 heures, des fois plus tard. Puis là, j'attrapais tout le trafic du vendredi, qui est le pire. Moi, qui est habituée de travailler de façon autonome, puis mon rendement était là, de toute façon. Je me suis même cassé un poignet. J'avais des fixateurs externes, et elle m'a demandé de travailler. J'ai commencé dans le bureau. Par la suite, elle m'a envoyé sur la route. Mes clients me disaient, ben voyons donc, Joanne. J'avais des broches qui sortaient de mes mains, des fixateurs externes. Mes clients avaient peur quand ils me voyaient.
Et là, sincèrement, c'est le stade quasiment esclave, là, ça, Joanne. C'est à un moment donné, les patrons, il faut qu'ils respectent aussi les gens qui ont des maladies. C'est fascinant aussi, vous me faites penser, parce que Kevin disait que c'était blessé. Vous êtes blessé. Oui. Des fois, tu te blesses, là, ça arrive. Mais des fois, tu te blesses parce que aussi, le congé de maladie fait ton affaire, parce que dans le fond, ça t'éloigne consciemment ou inconsciemment du milieu d'affaires toxique, du milieu de travail toxique, hein, Joanne?
Oui, peut-être que oui, c'est ça, mais de toute façon, aujourd'hui, je travaille de manière autonome, c'est-à-dire je suis représentante pour une grosse, grosse firme, puis
vous êtes
je
autonome,
sais que mon rendement est là, puis personne ne me surveille, je sais que je suis capable d'organiser mes journées comme je les veux.
Voilà.
Puis je trouve qu'il y a un point qu'il faut apporter, c'est que plus le patron te surveille, moins que tu donnes ton plein rendement. Moi, je pense que c'est ça.
Ça, là, vous avez tellement raison de le dire haut et fort comme ça. Si ça pouvait rentrer dans la tête des patrons, que c'est pas parce que t'es pas là à 9 heures, que t'es pas là, tu sais, 9 à 5, là, barré dans le ciment, là, parce qu'on pense que si les gens sont pas au bureau, ils travaillent pas. Les gens, s'il y a eu une évolution, Brigitte Bourque, depuis 20 ans, merci, Joanne, c'est peut-être, là, c'est peut-être pas, peut-être que au niveau des boss, ils ont stagné, mais au niveau des employés, moi, j'ai l'impression que les employés sont devenus beaucoup plus autonomes. Je veux dire, il y a 600, 700 000. La dernière fois qu'on a compté, puis je suis sûre que le chiffre est même conservateur, travailleurs autonomes au Québec, c'est pas pour rien. Je suis sûre que c'est en réaction des mauvais boss, mais c'est aussi parce que l'autonomie, on l'a développée au travail. Les employés sont les meilleurs employés aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord? Brigitte,
oui,
Guillaume?
Oui, mais ça, le désir d'autonomie, puis de, tu sais, de d'avoir la marge de manœuvre pour donner sa créativité, tout ça, ça, c'est pas nouveau comme besoin. Et c'est démontré que c'est ça qui fait que les employés sont plus heureux au travail, ils vont mettre le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est pas une nouveauté. Alors, et c'est à l'avantage de tout le monde. C'est autant à l'avantage de l'employeur de s'assurer que la personne donne le meilleur d'elle-même. Exact. Alors, c'est un win-win. Là, c'est, tout le monde y gagne à ça, puis c'est démontré.
Guillaume, un petit mot avant la pause là-dessus.
Rapidement, là, il y a plus d'autonomes au Québec parce que quand l'économie a baissé, les organisations se sont débarrassées des employeurs puis ils ont créé des contractuels.
Ouais.
Bon, aujourd'hui, je pense que ça fait une économie peut-être plus fluide, là, mais ça a été une période difficile.
C'est vrai,
mais ce qu'on entend, c'est détruire la confiance.
Ouais.
Je veux dire, quand un patron là, il travaille comme dans un contexte où il démontre qu'il ne fait pas confiance à son staff, c'est catastrophique, là. C'est catastrophique. Puis, on parlait de Joanne qui était représentante. Ben, c'est la plus grande erreur de casting qu'on peut faire avec un patron, c'est dans une poste de direction des ventes, c'est prendre ton meilleur vendeur puis en faire le directeur des ventes. Des fois, ça donne ce genre de situation-là, mais c'est pas simple.
On va s'arrêter ici, très courte pause. On va écouter vos histoires de mauvais patrons. Si vous avez déjà quitté un emploi, comme 40 % des Québécois quand même qui ont déjà quitté une job à cause d'une mauvaise relation avec leur supérieur immédiat, ça peut être le président de l'entreprise, mais ça peut être aussi le collègue VP, ça peut être ton directeur des ventes, ça peut être ton gestionnaire de business unit là, de ton département. 514-790-9850 et pour nous joindre sans frais partout où que vous soyez, 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Bonjour François, avez-vous déjà quitté un emploi à cause d'un mauvais patron?
Oui, Isabelle, félicitations pour ton émission en passant.
Merci.
C'est ça, là, moi, je suis infirmier, j'étais assistant au supérieur immédiat dans un CHSLD. Ouf. Et c'est ça, là, j'ai vécu beaucoup d'harcèlement de la part de ma supérieure, de la coordonnatrice. C'est ça, j'ai dénoncé là, beaucoup de choses. À un moment donné, à me rencontrer, il y avait un patient qui faisait des chutes à répétition parce qu'il prenait de l'alcool. Et là, j'avais décidé qu'on était pour le mettre au lit vers 10 heures. Il tombait toujours vers 10 heures et... finalement, deux préposés ont commencé à dire non, nous autres, on ne le couche pas, c'est le milieu de vie, tout ça, alors que j'essayais de protéger le patient qu'il ne fasse pas des chutes, il se blesse. Et j'ai avisé ma supérieure, la coordonnatrice, et finalement, elle m'a rencontré comme j'ai arrêté le pire des criminels, la manière qu'elle m'a interrogé sur ce qui s'est passé. Il me manquait seulement la lampe dans le visage pour me sentir quasiment comme dans les postes de police. Et finalement, elle m'a donné un avis disciplinaire alors que j'essayais de protéger le patient contre lui-même, dans le fond, parce qu'il était pas apte à prendre des bonnes décisions, il faisait des chutes. J'avais une autre infirmière aussi, de jour, qui faisait pas les suivis, à un moment donné, qu'elle lisait pas les rapports intercorps, tout ça, et j'ai rencontré ma patronne bien souvent avec elle, puis on s'est rencontrés à trois, puis la situation ne changeait jamais, fait qu'à un moment donné, moi, j'ai décidé de parler à son supérieur, à elle, et en souci de transparence, j'avais envoyé un courriel copie conforme à elle, et finalement, mais là, c'était soudainement le temps de faire mon pas une évaluation dans laquelle elle m'a descendu à tour de bras. Et fait que finalement, c'est ça, j'ai fait deux dépressions là, le temps que j'étais au travail là, pour cette dame-là. Et finalement, j'ai quitté mon poste là, pour aller ailleurs parce que je voyais là, qu'il n'y avait rien à faire.
Et c'est un très bon exemple, votre histoire, François. Merci beaucoup de votre témoignage parce qu'on en parlait pendant la pause avec mes invités que je vous présente. Guillaume Desnoyers, qui est chasseur de tête, associé principal chez Desnoyers Ressources humaines et conseils. Brigitte Bourque est coach exécutive chez Posé Coaching, qui fait ça toute la journée, hein, coacher des gens, des entreprises et des patrons, voilà. Et ce que François nous dit, c'est que finalement, c'est délicat. Parce que pendant la pause, vous dites, on peut gérer son patron, on peut... Puis avant la pause, je vous dis aussi, il y a moyen de faire savoir. C'est délicat. Et c'est pour ça peut-être qu'on le tolère, le boss, le mauvais boss. On s'étonnait là, qu'on le tolère dans trop d'organisations. Mais peut-être parce que si on dit des choses, on devient à ce moment-là, comme François l'a été, on se peinture un peu dans le coin, là, Guillaume. Mais c'est malheureux, mais c'est ça qui arrive
Dans bien des situations, on se rend compte d'une chose. Premièrement, on a une erreur de casting. On a quelqu'un qui ne devrait pas être dans une situation de gestion qui y est, mais l'organisation... tolère ces gens-là, malheureusement.
Ouais. Et l'employé qui se lève pour aller le dire, mettons, au supérieur du mauvais boss, ben c'est ça qui arrive. Comme François, il se fait dire, il se fait faire des mauvaises évaluations, il se fait, à son tour, critiquer. Donc, les gens, je pense qu'ils finissent par dire, c'est pas payant de parler, je vais juste m'en aller. C'est ça qui arrive,
c'est
non,
sûr,
Brigitte?
Si tu arrives à une situation comme François, où ça s'était dégradé au point où sa santé en souffrait, là, c'est sûr que la seule solution, c'est de partir.
Ouais.
Mais avant qu'une relation en arrive à un point, tu sais, de dégradation, de non-retour, ça commence toujours quelque part. Puis dans le fond... il faudrait qu'au premier signe où il y a quelque chose qui ne va pas dans la communication, par exemple, avec son patron, il ne faut pas attendre.
Ça va juste se détériorer.
Oui. Ça ne va jamais se régler tout seul. Et pas souvent, mais parfois, ça tient à des malentendus. T'sais, les gens ne se parlent pas. c'est souvent la communication. Alors, la communication, il ne faut pas toujours attendre que le boss nous parle pour nous dire, bon, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui ne va pas. Il faut poser des questions.
Des fois,
le
patron, il ne le sait pas. Il ne l'a pas attrapé ce moment-là où il a émis une remarque de trop, où il vous a mis un peu trop de pression parce que lui-même, il en avait. Fait que moi, je dis tout le temps aux gens, est-ce que vous parlez de votre patron ou vous parlez à votre patron? Puis moi, je pense que dans le fond, on n'a pas vraiment le choix. Parce que si on s'en va dans un cycle qui détériore une relation, écoute, si on ne s'exprime pas, on va juste s'en aller dans un cycle qui va être soit qui va nous amener dans des problèmes de santé, qui va nous amener dans une écœurantite aiguë. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix, surtout dans un marché où on a d'autres options. La plupart du temps, ailleurs, c'est assez facile de se replacer. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage d'y aller.
Je dirais que, tu sais, moi, je coach des patrons, puis c'est, vous seriez surpris, souvent, les gens ne réalisent pas vraiment, ils n'ont pas conscience complètement, en tout cas, de l'impact qu'ils ont.
Ouais.
Alors, déjà, on peut les aider à prendre conscience de ça.
Puis plus ils sont mauvais, moins ils s'en rendent compte.
Ah, c'est ça.
Ça, c'est un fait, là. C'est-à-dire, plus les gens sont mauvais dans quelque chose, moins ils sont capables d'avoir un regard critique sur ce qu'ils sont. Fait que les pires patrons, ils ont pas le know-how pour comprendre qu'ils sont pas bons. Fait que des fois, ça prend des employés qui...
Fait que si les patrons nous écoutent, qui se sentent un peu insécures, ça doit être à la base des meilleurs patrons que celui qui se pose jamais de questions. C'est ça que tu nous dis.
Ben, c'est fort possible. Ouais. Moi, je pense qu'un bon gestionnaire est capable de se remettre en question.
Régulièrement.
D'avoir un certain niveau de conscience de soi. Puis c'est comme ça qu'on se développe comme gestionnaire puis comme leader.
Ouais. Mais encore là, si personne ne l'aura jamais dit, s'ils n'ont pas eu de feedback, que ce soit de leur propre patron, de leurs employés, ils ont besoin de feedback.
Tout à fait.
C'est sûr. Michel est avec nous. Bonjour, Michel.
Bonjour.
On vous écoute.
Depuis une vingtaine d'années, je suis travailleur autonome. Bon, mm-hmm. J'ai décidé de partir à mon compte, tant mieux de travailler pour les autres. Je suis parti de ma compagnie, mais moi, j'ai une compagnie saisonnière. Fait que je travaille juste l'été sur ma compagnie. Mm-hmm. L'hiver, je travaille pour une compagnie dans le déneigement.
Ouais.
Fait que je suis encore travailleur autonome, mais j'ai à l'âge que j'ai là, je me suis dit, je me ferai pas un fonds de pension avec ces deux petites jobines-là. Là, je vis bien. Mais je pense, malheureusement, à ma retraite, à cause de mon âge. Un ami, une connaissance m'a offert une job. Il m'a contacté. J'ai envoyé mon CV que j'avais mis à jour un peu de temps avant parce que j'avais l'intention de me chercher un emploi pour me préparer pour ma retraite pour avoir un fonds de pension. la personne en question, je passe l'entrevue, super, je vois la job. Le travail, c'est pour être superviseur d'une compagnie de soir, une manufacture, une usine. Puis je trouvais qu'il y avait des beaux défis, des challenges, puis ça m'intéressait, le salaire était bon. Puis il dit, c'est moi ton patron, c'est moi qui vais être ton patron. Je le connaissais personnellement, on habitait ensemble, cohabité. Fait que je me suis dit, je m'entends bien avec lui, ça va être un bon patron.
Ouais.
Mais le gars, un incompétent dans tout, il n'a aucune connaissance. C'est de base un ingénieur. Il a été engagé comme ingénieur. Ils ont mis le directeur des opérations dehors et ils ont donné le poste de directeur des opérations.
Ouais.
Le problème, c'est une personne qui est intelligente, mais pour créer comme ingénieur, il n'y a aucune expérience sur le terrain.
Hey, on pourrait parler une heure de temps de ça. Moi, j'ai fait mon MBA au HEC à Montréal. Il y avait un étudiant sur deux à mes côtés, c'était des ingénieurs. C'était pas les plus empathiques, mettons, disons ça comme ça. Et c'est connu, d'ailleurs, dans le milieu.
Ben, c'est une erreur de casting classique.
Ah oui, c'est sûr, on généralise, bien sûr.
Mais j'aimerais vous dire ce que je lui ai dit avant de donner ma démission. Je lui ai dit, c'est ta job que je veux. Tu es une bonne personne, tu es un ingénieur, mais tu connais rien sur le terrain. Moi, j'ai l'expérience du terrain.
Mais ce que ça nous dit, Michel, finalement, c'est que des fois, il y a des gens qui sont compétents, là, ils devaient sans doute savoir des choses, là, cette personne-là. Les gens peuvent être compétents, ça fait pas d'eux des bons patrons.
Mais c'est typique depuis toujours.
Ben oui,
les gens ont souvent des promotions parce qu'ils étaient d'abord et avant tout de bons spécialistes.
Ouais.
Ils s'étaient reconnus pour leur intelligence, le fait qu'ils livraient des résultats. Et eux-mêmes, comme contributeurs, là, ils ont fait leurs preuves. Mais comme gestionnaire, c'est pas en toutes les mêmes réflexes.
Ben, en fait,
c'est bien plus l'intelligence émotionnelle qui est importante comme patron que l'intelligence.
Ouais. Souvent, on est enthousiaste par rapport au fait qu'on a quelqu'un à l'interne qui est compétent, qui a démontré un track record là, de résultats et tout ça. Puis, on se pose pas trop la question. On va le nommer superviseur, on va le nommer directeur, mais on n'a pas validé vraiment quelles sont ses compétences. Quelles sont ses compétences de gestion pour être capable
de... Surtout, on l'appuie pas.
Par la suite, on l'appuie pas.
Ouais,
mais il devrait pas être là
a
priori, parfois.
Il pourrait, s'il y a de la formation, s'il y a du support, il peut très bien devenir un très bon gestionnaire.
Ouais.
Mais comme disait Michel, son patron, c'était une bonne personne, mais c'était pas un bon gestionnaire. C'est différent, hein? Tu sais, il y a des mauvais patrons qui sont des bonnes personnes, mais c'est pour d'autres raisons qu'ils sont devenus des mauvais gestionnaires.
Il faut voir d'où on part en termes de compétences, parfois.
Ouais. On se revient tout de suite après la pause. On a Génie avec nous. Bonjour. Avez-vous déjà quitté un emploi à cause d'un mauvais patron?
Oui, définitivement. En fait, moi, j'étais conseillère en gestion de ressources humaines et c'était moi qui devais... je dirais congédier les employés à cause des directives d'un mauvais boss. Et j'étais tannée en 2016 de faire ça. Donc, j'ai complètement quitté mon métier et j'ai décidé de partir à mon compte et de créer l'entreprise bonboss.ca. Donc, comprendre.
Okay.
Oui, exactement. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est que j'ai vraiment étudié c'est quoi les bons boss. Puis, ils existent, mais le problème, c'est que souvent, ils sont humbles et... il faut les valoriser, donc il faut vraiment comprendre c'est quoi, puis aider les gestionnaires à avoir le savoir-être pour bien gérer les employés. Donc après avoir eu vraiment plusieurs mauvais boss, j'ai vraiment quitté ce domaine-là pour faire uniquement la mission qui était d'aider les bons boss à se faire connaître et se valoriser, justement ce que les mauvais patrons puissent apprendre à devenir meilleurs.
Ouais.
Ben, félicitations pour votre initiative. Je suis déjà allé voir votre site et c'est vraiment une belle idée. Je vous félicite.
Et on en a beaucoup au Québec aussi, les bons boss.
Oui, c'est ça. Je suis contente d'entendre ça.
Puis vous disiez que les bons boss sont humbles. Effectivement, moi, je pense qu'un des problèmes qu'on a dans les organisations, c'est que lors d'une entrevue, on accorde beaucoup d'importance à la performance en entrevue. Quand c'est le temps d'évaluer des compétences de gestion avec des gens qui sont relativement humbles, parfois, ils n'ont pas toujours les mots pour bien se vendre, mais c'est souvent eux les meilleurs en définitive. Fait que oui, il y a des erreurs de casting comme ça qui viennent du fait qu'un bon gestionnaire, un bon superviseur, parfois, c'est quelqu'un de très humain et souvent qui a une certaine humilité qui ne va pas être capable de bien vendre ses compétences. Donc, effectivement, ça peut être un problème.
Mais d'ailleurs, l'humilité, c'est vraiment un ingrédient important d'un bon boss, dans la mesure où c'est pas ton succès qui est important, c'est le succès des autres, c'est le succès de ton équipe, c'est de faire grandir ton équipe. Alors, il faut quelque part que tu t'effaces un petit peu devant
tout à fait. La définition d'un bon boss aujourd'hui, hein, c'est quelqu'un qui donne les outils puis qui enlève les obstacles pour permettre à ses employés de bien faire leur travail. Là, on n'est plus dans le mode je commande et je contrôle. Ah, je m'assure que les gens font ce que je dis. Là.
Exact. De toute façon, l'autorité, là, c'est un mythe. Ouais. C'est que c'est pas parce que tu es un boss que, en fait, l'autorité, ça sert à rien.
Ouais.
Tu ne vas pas commander, donner des ordres à tes employés, ça ne marche pas.
Il y en a beaucoup qui le font.
Oui,
là.
Mais on le voit, là.
Ouais. Ça donne ce que ça donne aussi.
Alors, c'est l'influence qui est importante.
L'influence, c'est ça, oui. Génie, je suis sur votre site, là, bonboss.ca, puis ça dit « Je suis un bon boss ». Bonboss.ca cherche les bons patrons pour les faire connaître. Alors, si vous êtes un bon patron, nous voulons en savoir plus sur vous pour vous présenter, parce que vous méritez d'être connu et connu. Est-ce qu'il y a beaucoup de bons boss qui vont s'afficher? Parce qu'on vient parler d'humilité déjà en partant si le bon boss pense qu'il est bon.
Non, en fait, ils sont humbles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leurs employés qui vont les inscrire sur le site. Ensuite, on fait une première évaluation et on informe le bon boss. On lui annonce qu'il a été nominé par son équipe. Et là, il peut prendre la décision de se faire évaluer vraiment avec des outils pour comprendre, pour valider ses critères. Donc, est-ce qu'il aide vraiment son équipe à progresser? Est-ce qu'il donne sa confiance? Est-ce que c'est quelqu'un, justement, qui est respectueux, qui est juste, parce qu'il y a la notion d'équité aussi, et on se sent traité comme un humain et non comme un numéro. Le fait aussi que le bon boss a une vision, parce que les gens ont horreur de changer de direction à chaque semaine. Donc, il faut vraiment avoir une vision, des objectifs clairs. Donc, après, s'il passe la certification, là, il peut se mériter sa place sur bon boss.
Certification bon boss.
La certification bon boss. Fait que là, vous en avez combien de bon boss au Québec?
Certifié par vous? On n'en a pas beaucoup, mais on est en train de certifier beaucoup.
Êtes-vous en pénurie de main-d'œuvre là-dessus aussi?
On est en pénurie de bons boss au Québec aussi.
Oui, effectivement, mais c'est beaucoup un rôle d'information parce que ce que j'ai pu voir, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui s'offrent sur comment développer son leadership, mais le problème est que un bon boss est automatiquement un bon leader, mais un leader n'est pas automatiquement un bon boss. Ouais. C'est là le travail qu'il faut faire. Donc, on est à la recherche de bons boss présentement, mais on va bientôt les présenter d'ici le 1er juin. Là, on va avoir une nouvelle vague de bons patrons, autant des femmes que des hommes. Là, c'est ça qui est intéressant.
Mais c'est intéressant. J'essaie de comprendre votre modèle d'affaires. Je suis sur votre site. Là.
Tu te vois si tu es là?
Non, pas du tout. J'essaie de voir parce que vous, dans le fond, vous offrez des services de coaching. Vous offrez quoi? C'est quoi votre entreprise?
Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est que les patrons payent pour avoir la certification. S'ils ne passent pas l'évaluation, là, ils ont accès à la formation. Donc, on donne beaucoup de formations, de conférences pour vraiment informer c'est quoi un bon boss. Okay. Et dès le mois de septembre, on s'en vient avec un tout nouvel outil de recrutement pour vraiment pouvoir choisir son bon boss.
Voilà, OK,
donc,
d'accord.
Je comprends. Mais bref, on est vraiment dans le volet on informe, on forme pour la période estivale.
Ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Jenny.
Merci à vous, c'est un super
Génie, c'est Génie Ouellette, en fait, qui est fondatrice de bonboss.ca. Et elle a lancé ça, justement, l'année dernière pour répondre aux besoins du marché. C'est intéressant, c'est québécois. On s'arrête ici. En fait, on a comme fini. Ben voyons donc, on a fini sur ce sujet-là, c'est pas vrai. Moi, j'étais partie pour encore une heure. Est-ce qu'on a le temps de parler à Gaston vite-vite? On parle à Gaston vite-vite là-dessus. Avez-vous déjà eu un mauvais patron, Gaston?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, trois entrevues avec une compagnie de placement.
Oui.
Avec l'employeur, je suis embauché. On me dit que c'est une compagnie familiale, tout va bien. J'étais embauché au mois de décembre. Je rentre le 4 janvier au matin, on me présente aux employés. Et aussitôt que lui a quitté, on me remet une lettre comme de quoi les employés refusaient de travailler.
C'est un va-pas-là, on s'entend.
puis là, je m'envoie avec la lettre, puis je vais le rencontrer à son bureau. Il me dit qu'il y a un meeting de production en avant. Fait que je me présente au bureau, et en m'en allant au bureau, j'entends crier. Mais pas crier, là. Il engueule tout le monde dans le bureau. Et il leur dit que si lui ne serait pas venu au monde, il n'y aurait personne qui aurait un job dans le monde, le style. Et moi, je rentre là, je m'assieds, j'écoute gueuler, je me lève, je m'en allais, tu t'en vas. Ben, je dis, écoute, moi, j'ai fini. Il dit, tu t'en vas où? Il dit, moi, j'ai pas fini, moi, j'ai terminé. J'ai dit, c'est là que ça va arrêter, ça irait pas plus loin.
Mon Dieu, wow.
C'était comme ça. Écoute, après trois entrevues, avoir passé, et c'était une compagnie familiale, claquée. La compagnie existe encore, mais j'en revenais pas qu'il y ait.
Ouais, puis ça, Gaston, les entreprises familiales mériteraient le sujet d'une autre heure parce qu'il y a des grands défis, disons-le, comme ça. Les entreprises familiales, parfois, bon, il y a des avantages, mais il y a aussi. parfois des avantages. C'est pas toujours facile de s'inscrire là-dedans.
Son meeting, c'était bienvenu à bord, mais le bateau, c'est le Titanic.
Oh my God, oui, c'est épouvantable. Mais tu sais, du monde, il faut le rappeler, je pense qu'il faut en profiter. Merci beaucoup, Brigitte Bourque et Guillaume Desnoyers. On aurait pu faire une autre heure parce que sincèrement, j'ai plein de témoignages qui rentrent, puis il y avait encore plein de monde qui voulait témoigner.
Mais sujet.
Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé du tout de supporter du harcèlement psychologique de la part d'un supérieur. Je pense qu'il faut absolument se leur dire. Il y a des normes de respect au travail et c'est celles-là qui doivent primer. Puis, est-ce qu'on veut vraiment se faire suer dans la vie, là, tu sais? On passe trop d'heures au travail pour subir les affres d'un mauvais patron.
Il y a plein de jobs disponibles actuellement.
Tellement. Merci à tous deux. Merci bien. On se retrouve après les nouvelles.